Deuxième partie, donc, voyons comment fonctionnait l'Inquisition. Nous ne parlons pas du fonctionnement, c'est-à-dire de la structure de l'Inquisition. Donc, le pape nomme en général un légat. Ce légat nomme des inquisiteurs, c'est-à-dire des juges. Eh bien, ces juges, nous allons voir ce qu'ils faisaient, comment fonctionnait, si vous voulez, ce tribunal de l'Inquisition. D'abord, l'Inquisition était un tribunal itinérant. Donc, les frères prêcheurs, les dominicains, plus tard les franciscains, se promenaient de village en village, de ville en ville, pour condamner les hérétiques. Donc, c'est ce qu'on appelait les tournées inquisitoriales. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on avait beaucoup le sens de la juridiction. C'est-à-dire, quelqu'un qui réside dans un endroit devait être jugé dans cet endroit. Donc, il fallait forcément établir le tribunal dans cet endroit pour pouvoir le juger. Voilà l'explication de ces tournées inquisitoriales. Bon, le pape va ajouter, si vous voulez, des adoucissements, hein, à ces problèmes de juridiction pour une raison bien simple, c'est que il était assez périlleux de se promener de village en village, car si vous tombiez sur un village qui était entièrement cathare, les inquisiteurs auraient du mal à s'en sortir vivants, ce qui est arrivé plusieurs fois. Donc, un certain nombre d'inquisiteurs ont payé leur travail de leur vie. Donc, au Concile de Narbonne en 1246, donc confirmé par le pape Innocent IV l'année suivante, eh bien, donc ce concile autorise les inquisiteurs à interroger les suspects en dehors de leur lieu de résidence, donc dans des lieux plus sûrs. Mais malgré tout, ces tournées inquisitoriales continuèrent de perdurer. Alors, quand on arrive dans un endroit, qu'est-ce qu'on commence par faire? Est-ce qu'on emprisonne tout le monde? Non. On commence par prêcher et par établir un temps de grâce. Donc, ce qu'on appelait le temps de grâce, l'édit de grâce, en même temps, édit de foi. Donc, quand les inquisiteurs arrivaient dans un endroit, ils faisaient un sermon public et tous ceux qui se sentaient un peu coupables d'hérésie, même un tout petit peu, ces inquisiteurs donc prêchaient et ces personnes qui se sentaient coupables d'hérésie, eh bien, avaient un délai, si vous voulez, de 2 semaines à 1 mois pour se dénoncer, pour faire pénitence. Donc, ce délai était fixe. Ceux qui en profitaient, dont la faute était restée cachée, qui estimaient avoir douté de la foi, etc., eh bien, ils étaient dispensés de toute peine ou recevaient qu'une pénitence légère ou secrète. Vous voyez qu'on ne brûlait pas tout le monde. Ceux dont l'hérésie était publique, qui se dénonçaient, étaient exonérés de la peine de mort. Vous voyez, on ne tuait pas tout le monde indistinctement. Ils étaient même exonérés de la prison à vie. Ils avaient 2 semaines, 1 mois, donc, pour se rétracter. Ils se voyaient en général condamnés à un court pèlerinage et à d'autres pénitences canoniques, donc les pénitences réglées par le droit. Ce temps de grâce était également le moment pour ceux qui connaissaient des hérétiques notoires ou des suspects de les dénoncer. Donc, c'est ce qu'on appelle l'édit de foi. Donc voilà, nous voilà à la délation et la citation. Donc à l'issue de ce délai, 2 semaines ou 1 mois, le moindre suspect d'hérésie était poursuivi, même si la dénonciation était très vague. Bon, cela ne signifie pas pour autant qu'on finissait par condamner n'importe qui, comme nous le verrons. Les hérétiques et suspects d'hérésie qui ne se présentaient pas spontanément était cité à comparaître. Cette citation était la plupart du temps écrite. Elle se faisait par l'intermédiaire du curé du lieu. Le refus de comparaître après cette citation exposait les inculpés à une poursuite pour contumace. Donc, tout ça, ce sont des expressions de droit. La contumace, c'est tout simplement bien le refus de citer à comparaître. Mais l'inquisiteur pouvait faire une seconde sommation par faveur. Donc il arrivait que l'inquisiteur dise bah, « Je vous recite de nouveau ». Donc, je vous recite devant le tribunal de l'Inquisition. Donc, il pouvait le faire. Après cela, il devenait nécessaire de chercher à capturer l'hérétique. Bon. Ce n'était pas forcément de tout repos. Encore une fois, bien des inquisiteurs l'ont payé de leur vie et tombaient dans des embuscades. Surtout au commencement de l'Inquisition. Puisque, évidemment, plus l'hérésie recule, plus il est facile de la combattre. Examen et interrogatoire des accusés. Donc, soit il s'est présenté lui-même, soit on a été obligé d'aller le rechercher, et donc forcément de l'incarcérer. Une fois arrêté, le prévenu comparaît devant le tribunal de l'Inquisition. Et alors, il reçoit une communication des charges relevées contre lui. Donc, on l'accuse soit d'avoir fait ceci, soit d'avoir dit cela, d'avoir pensé telle parole, sur le fondement, évidemment, de ceux qu'il avait dénoncés. Avant qu'il y réponde, on lui faisait prêter serment sur les évangiles de dire la vérité, citation du serment, tant sur lui-même, en tant qu'il est accusé, que sur les autres vivants ou défunts, en tant qu'il aurait pu être témoin de l'hérésie des autres. Après ces précautions, l'accusé avait la parole et la gardait aussi longtemps qu'il le désirait. Il pouvait parler, 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 tant qu'il le voulait. Il pouvait donc se défendre. Évidemment, très tôt, les inquisiteurs donc, ont disposé, si vous voulez, de manuels, de sortes d'interrogatoires, pour pouvoir poser les questions qu'il fallait selon les divers types d'hérésie. Hein. Donc on ne posait pas les mêmes questions à un cathare, à un vaudois. Donc les vaudois, donc, ce ne sont pas les habitants du canton de Vaud en Suisse, ce sont les disciples d'un certain Valdès qui était marchand à Lyon, donc, originaire de Lyon. Et donc, il lui disait que tous les fidèles pouvaient prêcher, devaient prêcher, entre autres choses. Et les condamnations également, les interrogatoires donc, contre les béguins, donc les béguins, des espèces, si vous voulez, de spirituels, mystiques, pas dire mystico-dingo, mais donc c'est une hérésie plus sérieuse que ça, bien entendu. Donc évidemment, l'interrogatoire était différent. Ces hérésies ont des parentés, bien entendu. Les accusés ont été parfois assez habiles pour cacher leur hérésie. Donc certains employaient des formules ambiguës. Et alors, les manuels des inquisiteurs recommandent d'user de ruse. Si l'accusé ruse, eh bien, on va ruser également. Certains pourront être choqués de ce genre de méthode, nous verrons en quoi elle consiste. Donc par exemple, on les leurrera par des douces paroles, dit un manuel, et des promesses d'indulgence. On leur accordera des faveurs dans la nourriture et le logement. On leur dépêchera d'anciens complices bien convertis, mais qui feindront d'être toujours hérétiques, pour amorcer des conversations où les coupables se trahiront par leurs confidences. Bien sûr, on postera témoins et notaires pour recueillir ces paroles. Alors, bon, cela paraît vicieux de la part de l'Inquisition. Il faut replacer cela dans je dirais, les tactiques de guerre. Hein? Donc saint Thomas, je crois, saint Thomas d'Aquin, un article dans sa Somme théologique où il dit que il est possible d'user de ruse dans la guerre. Alors, si vous voulez, c'est une espèce de guerre de tranchées où l'accusé se retranche derrière des formules ambiguës, donc pour le faire parler, pour lui faire avouer ses crimes, eh bien, nous, on va user également de la ruse. Bon. on en pense ce qu'on en veut. En tout cas, il faut bien le remettre dans le contexte du Moyen Âge et dans ce contexte des ruses de guerre. Donc, ce sont des stratégies. Passons aux accusateurs et aux témoins, parce que si ces personnes-là se retrouvaient devant l'Inquisition, c'est qu'il y a des gens qui les avaient accusés. Hein. S'ils s'étaient accusés eux-mêmes, comme on l'a dit, eh bien, ils auraient eu une pénitence, un pèlerinage ou autre pénitence canonique, mais ils ne seraient pas devant le tribunal. Comme dans la procédure civile, on usait également de la délation, donc, c'est-à-dire de la dénonciation. Ça encore, ça pourrait paraître choquant, mais il faut bien se rendre compte du mal qu'était l'hérésie, nous l'avons vu, et donc il fallait absolument extirper cette hérésie. Cependant, la procédure inquisitoriale simplifiait la procédure civile. Donc la procédure inquisitoriale est plus simple. Elle se contentait de la simple dénonciation et de l'audition des témoins. Donc on prenait les témoins, ceux qui dénonçaient, et on les écoutait. Ces témoins n'étaient pas obligés de faire la preuve de ce qu'ils avançaient. Dans la procédure civile stricte, ils devaient apporter une preuve stricte que telle personne avait commis tel crime. Donc l'Inquisition se passait de ces preuves. C'était aux inquisiteurs de faire preuve de discernement. Avant 1261, l'on avait scrupule à faire appel aux témoignages d'autres hérétiques ou criminels. Donc on ne peut pas se fier à un hérétique ou un criminel. Donc on ne se fiait pas normalement à leurs témoignages. Le pape Alexandre IV assure la conscience de ceux qui hésitaient, donc dans une bulle c'est un document pontifical, donc cette bulle Consuluit du 23 janvier 1261. Donc voilà pour les qui peut témoigner, donc tout le monde peut témoigner, même les hérétiques, même les voleurs, etc. L'âge des témoins, il était de 12 ans pour les femmes et de 14 ans pour les hommes. Encore une légende. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Et évidemment, donc voyez que l'Église n'est pas aussi méprisante pour la femme que certains le prétendent, puisqu'elle est jugée plus précoce que l'homme. Donc la femme peut témoigner déjà, donc on n'estime pas comme rien le témoignage d'une femme, et ce qui n'est pas le cas dans certaines autres religions, et elle peut témoigner à partir de 12 ans. Les hommes ne peuvent témoigner qu'à partir de 14 ans. Donc vous voyez que l'Église ne méprise pas les femmes. C'est un fait naturel que les femmes sont plus précoces. Eh bien, l'Église le reconnaît, même à travers l'Inquisition. Donc. Alors, le nombre de témoins. Deux témoins étaient requis pour accuser quelqu'un. C'est la tradition biblique. Ah non, c'est ce qui est dit spécialement dans l'évangile de saint Matthieu. Mais dès l'an 1225, on voit le juriste Guy Fouquet deviendra le pape Clément V. Donc en 1265, ce juriste conseille de ne pas s'en tenir seulement au nombre de deux. D'ailleurs, le fameux Nicolas Emmerich, donc un inquisiteur qui a écrit un manuel des inquisiteurs, donc il y a des grands inquisiteurs qui écrivaient des manuels à l'usage des plus petits inquisiteurs. Les deux les plus connus sont celui de ce Nicolas Emmerich et également de Bernard Guy, donc très connu puisqu'il apparaît dans le roman Le nom de la rose, également dans le film où on le fait passer pour un sanguinaire affreux. Donc, Nicolas Emeric est de la même opinion. Il ne faut pas s'en tenir à ce nombre. D'ailleurs, de fait, il était rare que les inquisiteurs se contentassent de deux témoins. Souvent, le nombre s'élevait à 3, 4, 8, 10 ou même plus. L'accusé n'était donc, si vous voulez, à partir de ce nombre de témoins, on peut se dire vraiment qu'il n'était pas accusé pour rien. Un point important, l'accusé n'était jamais confronté aux témoins. Donc, il ne se trouvait jamais les deux en même temps devant le tribunal, par mesure de protection pour les témoins. Leur nom n'était même pas communiqué à l'accusé, du moins jusqu'au pape Boniface VIII. Boniface VIII, eh bien, c'est au début, tout début du XIVe siècle. Donc le pape Boniface VIII permet, dans la procédure inquisitoriale, cet usage du droit civil. Donc évidemment, il est possible que l'accusé se défende mieux s'il sait que telle ou telle personne l'accuse. Pour finir sur les témoins, il faut noter que le témoignage d'un ennemi mortel, justement, ne devait pas être reçu. Il s'agit cette fois d'une mesure de protection contre les fausses accusations. Et attention, il faut noter enfin que les peines à l'encontre des faux accusateurs étaient assez sévères. Hein, en général, ils encouraient la peine qu'aurait dû encourir celui qui aurait dû être condamné par leur faux témoignage. Donc, c'était assez dissuasif. On ne peut pas l'accuser, donc l'inquisition, de procéder de façon arbitraire. L'avocat. La question de l'avocat est bien simple, c'est que en principe, l'accusé n'en avait pas. Du moins, à partir donc jusqu'à 1248, donc au Concile de Valence. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'y avait pas présomption d'innocence, mais de culpabilité. Ce qui est normal au vu de toute la procédure préliminaire. Donc souvenez-vous que l'accusé avait eu le temps de faire pénitence et de réfléchir. Cependant, il semble que les inquisiteurs étaient assez libres. Donc ça, c'est un fait marquant aussi, c'est que les règles ne sont pas absolument et parfaitement bien établies. Les inquisiteurs sont en général très libres de leur mouvement. Voilà pourquoi d'ailleurs les fautes que pourraient commettre les inquisiteurs, il faut plutôt les imputer aux inquisiteurs eux-mêmes qu'à l'Église, bien entendu. Au cours du XIVe siècle, la présence d'un avocat est de plus en plus fréquente, mais il a plus un rôle de conseiller que de défenseur de l'accusé. Donc il le conseillait en le stimulant à reconnaître la vérité des accusations, ou bien, quand il était vraiment convaincu de son innocence, ce qui pouvait arriver, eh bien, l'avocat pouvait effectivement l'aider à faire éclater la vérité. Alors, la vexation, vexatio ou contrainte. Si l'accusé refuse toujours d'avouer sa culpabilité, qu'est-ce qu'on faisait ? C'était le premier pas, si vous voulez, vers la torture dont nous avons parlé. On employait divers moyens pour le contraindre à parler. Alors ces moyens étaient d'abord dissuasifs. Donc il était dissuasif, si vous voulez, de menacer quelqu'un à la prison. La prison étroite. Donc on dit que certaines basses fosses, comme on dit prison étroite, dans lesquelles on pouvait à peine se tenir debout. Il y avait également les chaînes, la privation de repos, de nourriture, si vous voulez, toutes espèces de tortures indirectes. Ces peines, même la menace simplement de ces peines, évidemment, pouvaient dissuader, les volontés les plus rebelles. Maintenant, il est question de la question, justement. La question, c'est-à-dire la torture. Peut-être la question, je dirais, la plus disputée de l'Inquisition. Donc, la torture était nommée justement la question. Passer quelqu'un à la question. Et c'est une question assez délicate. L'Église a interdit la torture pour obtenir des aveux. Le pape Saint-Nicolas Ier, par exemple, le 13 novembre 866, donc on est bien loin de cette période, dans sa réponse aux Bulgares, et la permettre par contre en Italie au XIIIe siècle. C'est la bulle du pape Innocent IV ad extirpanda, donc du 15 mai 1252, la loi 25. Cette bulle est confirmée par Alexandre IV et Clément IV. La contradiction est flagrante. Donc il y a bien une contradiction entre le pape Saint Nicolas Ier et les papes suivants, c'est-à-dire Innocent IV et Alexandre IV, Clément IV. Donc, la torture était interdite au départ pour provoquer des aveux. Donc, on va voir comment ça se passe, ce qui est assez normal. La torture était pratiquée, donc la contradiction, bien sûr, si elle est flagrante, elle ne touche pas directement à la foi. Donc il n'est pas question d'infaillibilité dans ce cas-là. Hein, c'est là que l'adage s'applique. Quand un pape fait quelque chose, le pape suivant peut le défaire. Donc dans ce cas-là, ça s'applique tout à fait. C'est une mesure, je dirais, purement disciplinaire, qu'on apprécie donc comme on le veut. La torture était pratiquée par les tribunaux civils. Jusque-là, l'Église s'y refusait. Donc le pape Innocent IV la réclame donc dans l'Inquisition à l'instar donc des tribunaux civils. Mais avec des règles bien précises. Il était clair pour le pape qu'il fallait absolument éviter la diminution des membres, selon l'expression, et le péril de mort pour l'accusé. Quand on avait obtenu la permission d'employer la torture, ce qui n'était pas forcément simple, on exhortait l'accusé en lui expliquant les diverses méthodes de torture. Donc on lui disait, voilà ce qu'on va faire. Donc avant, pendant qu'on lui ôtait ses vêtements, on continuait à l'exhorter. Il avait encore le temps de dire, voilà, je vais parler. S'il s'obstinait à se taire, eh bien, on passait à la torture. Avec des moments de pause pour, évidemment, pour pouvoir poser des questions. Pendant les XIIIe et XIVe siècles, on employait trois modes de torture que je ne détaillerai pas, le chevalet, l'estrapade et les torches ardentes. L'estrapade consistait donc à attacher par les mains le prisonnier, et la corde on la passait sur une poulie qui était fixée en haut de la voûte, on le montait et puis on le laissait retomber violemment au sol. Le pire donc des tortures étaient les torches ardentes, bien sûr. Donc on mettait les pieds du prévenu devant un feu. On enduisait même les pieds de graisse pour que ça brûle mieux. Et voilà. Alors en soi, c'était l'autorité civile qui devait appliquer la torture. Puisque chez les clercs, ça provoquait ce qu'on appelle une irrégularité. Mais malheureusement, cette irrégularité était souvent facilement absoute. Donc les inquisiteurs se donnaient l'absolution mutuellement, très facilement. Bon, le pape Clément V, dont nous avons parlé, a essayé de modérer les inquisiteurs sur ce point. Donc ils étaient assez libres, et malheureusement trop libres, et certains peut-être, et certainement cruels, appliquaient la torture à tort et à travers. Donc voilà pourquoi le pape Clément V, dans le document, donc lors du concile de Vienne en 1311, dans le document Multorum Querela, le pape modère les inquisiteurs sur ce point. Donc c'est en latin, vous la trouvez sur internet, le nom du site est trop long. L'inquisiteur et l'évêque du lieu devaient s'aviser mutuellement, donc 8 jours à l'avance avant de procéder à la question. Donc l'évêque ne pouvait pas demander la torture sans l'avis de l'inquisiteur, ni l'inquisiteur sans l'avis de l'évêque, etc. Donc il compliquait la torture pour qu'elle ne soit pas pratiquée trop souvent. Bon. Alors le fait est que les registres judiciaires mentionnent rarement la torture. De plus, et c'est très important, les aveux sous la torture n'avaient de valeur que s'ils étaient ratifiés librement par la suite. Enfin, suivant l'avis le plus général, l'accusé qui n'avouait pas sous la torture devait être absous. Donc si on lui pose des questions sous la torture, il est absous de toutes ces questions qu'on lui avait posées, de toutes les accusations qu'on avait faites contre lui sous la torture. Il était absous et même relâché, donc purement et simplement. C'était l'avis en général des inquisiteurs. S'il restait une suspicion d'hérésie, bon, on recommençait le procès. Quand l'accusé désavouait les aveux qu'il avait faits, on s'en rapportait, on revenait à les dépositions des témoins légitimes, car selon la règle, on ne doit pas procéder à la condamnation d'un inculpé sans son aveu ou sans preuves certaines et lucides. Donc, il n'y a rien d'arbitraire, normalement, dans le tribunal de l'Inquisition. La sentence, donc nous arrivons à la fin, la sentence est le sermo generalis, ce qu'on appelle le sermon général, si vous voulez. La sentence était entourée et devait être entourée de toutes les garanties d'impartialité. Ce n'était pas toujours le cas et il y a eu des abus, cela est vrai. Elle devait être formulée avec le concours de l'évêque du lieu, au moins pour les peines les plus graves, jusqu'à Boniface VIII. Donc Boniface VIII, début du XIIIe siècle. Donc la sentence, le Boniface VIII prescrit le concours de l'évêque pour toutes les sentences. Donc non seulement pour les sentences les plus graves, c'est-à-dire la peine de mort, mais pour toutes les autres sentences. Outre l'inquisiteur et l'évêque, le tribunal comprenait des assesseurs. Ces assesseurs avaient une voix consultative. Le conseil était composé de toutes les personnes que les inquisiteurs avaient jugé utile d'appeler sans aucune limitation. Aucune limitation. Le nombre des conseillers était généralement très élevé. On leur soumettait alors les pièces du procès, ou au moins des extraits de ces pièces sans aucun nom. Donc la question des noms est toujours très importante pour la protection des témoins, si vous voulez. Après cet examen, les inquisiteurs recevaient les avis de tous les conseillers sur chaque cas. Donc on passe en revue tous les accusés et chaque conseiller donc donne son avis. Les avis étaient les suivants. Pénitence au gré de l'inquisiteur, ou bien l'accusé doit être emprisonné, ou bien l'accusé doit être livré au bras séculier. Et généralement, les inquisiteurs suivaient les sentences, ces sentences, quand ils ne les modifiaient pas dans le sens de l'indulgence. Très rarement, les inquisiteurs aggravaient les peines. Enfin, on citait les accusés pour la séance publique, où leur sort devait être définitivement fixé. Tout le monde était convoqué pour assister à ce qu'on appelait le sermo generalis, ou bien en Espagne, l'auto da fe, c'est-à-dire acte de foi. Nous dit un historien donc, de l'Inquisition, Guiraud, dans le dictionnaire apologétique de la foi catholique, il ne faut pas, et d'ailleurs même dans le dictionnaire de théologie catholique par Vacandard, donc qui n'est pas forcément favorable à l'Inquisition d'ailleurs, il ne faut pas s'imaginer qu'on dressait des bûchers, il y avait plein de bourreaux et puis on brûlait tout le monde. Non, c'était pas ça le sermo generalis. Ce sermon général commençait par une brève instruction puis se poursuivait avec les prestations de serment. Donc les officiers de la juridiction temporelle du roi, si vous voulez, prêtaient serment d'obéir aux injonctions des inquisiteurs. Ensuite, on relevait certains condamnés de leur pénitence et on en imposait d'autres. À d'autres, pardon. Enfin, on donnait lecture des fautes commises par ceux qui allaient être jugés. Cette lecture se faisait en langue vulgaire dans l'ordre suivant. Voilà ce qui est le plus intéressant. Premièrement, ceux à qui les croix et les pèlerinages étaient imposés. Donc on imposait des pèlerinages ou des croix, de porter une croix à certains. Deuxièmement, ceux qui étaient condamnés à la prison. Troisièmement, on condamnait les faux témoins, comme tels se voyaient infligés de la double peine de la pénitence et de la prison. Quatrièmement, les prêtres et les clercs qui étaient soumis à la dégradation de leur office et à la prison. Cinquièmement, on condamnait les morts, qui, vivant, aurait été condamné à la prison. Sixièmement, on condamnait les morts dont les cadavres devraient être exhumés pour impénitence. Septièmement, les fugitifs, ayant comme tel mérité d'être condamnés comme hérétiques. Donc le délit de fuite, pour eux, c'était reconnaître la faute. Huitièmement, ce qu'on appelait les relapses, qui devaient être abandonnés aux bras séculiers. D'abord les laïcs et ensuite les clercs. Donc c'est la peine de mort, si vous voulez. Neuvièmement, les hérétiques parfaits, ceci pour les cathares. Dixièmement, ceux qui ayant révoqué leurs aveux ou qui, convaincus, n'ayant rien avoué ni n'ayant pu se défendre, comme un pénitent, devaient être livrés aux bras séculiers. Donc, ceux qui n'avaient pas pu, après avoir nié les aveux qu'ils avaient faits, qui n'avaient pas pu, eh bien, prouver leur innocence, qui ne s'étaient pas repentis de leur crime. Des chiffres, bien sûr, vous voulez des chiffres. Alors, nous allons donner les chiffres de ce sanguinaire, soi-disant Bernard Guy. Donc, entre 1308 et 1323, donc pendant 15 ans, il a prononcé 18 sermones generales. Il a prononcé 930 sentences, c'est déjà pas mal. Ce qui se répartissent ainsi. Sur 930 sentences, il a prononcé 139 acquittements, suivis d'élargissements purs et simples. Donc les gens sont libérés. 139. 132 impositions de croix. C'est une peine assez minime. 9 pèlerinages en Terre Sainte, ce qui est une peine assez grande. 143 services militaires en Terre Sainte. C'est beaucoup. 307 emprisonnements effectifs, bon parfois les peines sont cumulables, 17 emprisonnements décrétés contre des défunts, on ne mettait pas les cadavres en prison, rassurez-vous, 42 remises aux bras séculiers, donc ça veut dire 42 peines de mort sur 930 cas en 15 ans par ce soi-disant sanguinaire, sanguinaire Bernard Guy, donc en tout sur 960 procès, donc c'est-à-dire moins de 3 peines capitales par an pour le grand inquisiteur Bernard Guy. 3 remises aux bras séculiers prononcées contre des défunts. Bon. 69 exhumations, 40 sentences de contumace, 2 dégradations, donc à l'encontre de clercs, 2 expositions au pilori. Sur la place publique, on les attachait, puis les gens se faisaient un plaisir de jeter des légumes, des fruits pourris sur ces personnes. Oui. Un exil, 22 destructions de maisons et un Talmud brûlé. Voilà donc les peines de Bernard Guy. Donc vous voyez que les condamnations à mort, finalement, de la part d'un grand inquisiteur tel que Bernard Guy, donc il y avait une juridiction importante, n'étaient pas aussi nombreuses qu'on peut le prétendre. Conclusion. Alors, bon, je termine. L'inquisition est-elle un péché de l'Église? Eh bien, assurément non. Pourquoi? Parce que, d'abord, l'hérésie n'est pas une opinion divergente de l'opinion de Rome, mais bien une erreur par rapport à la foi catholique, qui est la seule vraie religion. Alors, peut-être, j'en choque certains qui m'écoutent, bien sûr, mais je ne peux pas faire un traité apologétique sur la vraie religion ici. Comme je dis, je n'ai pas le temps d'en faire la démonstration, mais il faut reconnaître que le point névralgique est bien là. Celui qui ne veut pas reconnaître qu'il n'y a qu'une vérité religieuse, comme il n'y a qu'une vérité philosophique, comme il n'y a qu'une vérité scientifique, celui-là, évidemment, ne peut pas admettre en soi l'inquisition. De même, le moderniste, pour qui la foi, au fond, n'est qu'un sentiment religieux, et la Bible un récit des expériences religieuses de grands croyants, pour le moderniste, au fond, c'est cela. L'hérésie, existe bel et bien, et en tant que telle, eh bien, c'est-à-dire en tant que l'hérétique persiste à la professer, cette hérésie est condamnable. Jusqu'au XIIe siècle, l'Église n'use à son égard que de peines spirituelles. Elle aurait pu continuer ainsi, peut-être. Mais à cette époque surgissent des hérésies dangereuses, des hérésies immorales, des hérésies anarchiques, des hérésies antisociales qui se répandaient comme la peste. Nous l'avons vu, le catharisme se retrouve avec toutes ses conséquences, profanation des églises, etc., en Bretagne, dans le sud de la France, en Belgique, en Allemagne, en Espagne. Donc, vous voyez que ce n'était pas une petite hérésie. Il fallait endiguer cette hérésie. Dans ce chaos, l'Inquisition apparaît bien comme une mesure de préservation de la foi, mais également, comme je l'ai dit, comme une affirmation de l'autorité religieuse de l'Église face aux princes temporels. Après la croisade contre les cathares, l'Inquisition a permis le retour à la foi de nombreuses personnes et la préservation de la foi de bien d'autres personnes. Cependant, si nous affirmons que l'Inquisition, en tant que telle, en tant qu'institution, est tout à fait justifiée, évidemment, nous aurions tort de ne pas reconnaître les abus de certains inquisiteurs. De même, on peut apprécier plus ou moins, évidemment, l'usage de la torture. Bon, personnellement, bien sûr, je ne suis pas favorable à l'usage de la torture et on peut éventuellement se passer de la peine de mort. Cela ne veut pas dire que la torture est illicite ni que la peine de mort est illicite. Ce ne sont pas des péchés de l'Église. Ces fautes des inquisiteurs sont le côté humain de l'Inquisition. Les hommes ont leur haine, leur passion, leur convoitise. Il en est encore aujourd'hui ainsi. Certains juges étaient violents et cruels, mais ces péchés ne sont pas imputables à l'Église. Ils sont imputables à ces hommes, et uniquement à ces hommes, non pas à l'Inquisition. Hein, d'ailleurs, il est à noter que l'Église a toujours, par la bouche et par la main des papes, rappelé fréquemment à l'ordre les juges iniques ou ceux dont le zèle était indiscret, exagéré. Il y aurait toute une étude à faire justement sur les documents pontificaux, donc des papes, concernant l'Inquisition. Par exemple, un ancien parfait cathare devenu inquisiteur, comme quoi vous voyez qu'on les brûlait pas tous. Donc un ancien cathare devenu inquisiteur, dominicain, Robert le Bougre, il est appelé le Bougre justement parce qu'il avait été hérétique, ce Robert le Bougre a été condamné à la prison à vie. Pourquoi ? Ben parce qu'il était trop virulent à l'égard des hérétiques. Et ce n'est pas le seul cas. Quant aux méthodes employées et aux peines infligées, il faut les remettre dans leur contexte du Moyen-Âge. Sans dire que c'était un siècle d'obscurantisme, loin de là, il faut bien reconnaître que les mœurs de nos ancêtres étaient plus rudes que les nôtres. Leur sensibilité n'était pas la même. Ils ne réagissaient pas comme nous pouvons réagir devant la torture. Ils étaient moins sensibles à ce genre de peine. Mais leur sens de la vérité était plus aigu, leur foi plus grande, et de même leur sens de la justice. Pour eux, il est clair qu'un coupable devait être puni. Pour la mentalité moderne, les coupables aujourd'hui sont presque tous considérés comme des malades qu'on doit soigner. Cela n'est pas tout à fait faux, mais cela n'est pas tout à fait vrai. À vouloir toujours appliquer des peines médicinales, on finit par oublier le côté dissuasif des peines qu'on appelle afflictives. Et si l'on y regarde de près, l'Inquisition essayait de garder l'équilibre entre les deux, peines médicinales et peines afflictives. Et à mon sens, l'Inquisition y réussit. Je vous remercie de votre attention.